20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, notre jour J est le 28 avril 1988. François Mitterrand et Jacques Chirac s'affrontent dans le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle.
Moi, je continue à vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Nous sommes le 28 avril 1988. 30 millions de téléspectateurs français assistent sur TF1 et Antenne 2 au débat télévisé d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 1988 depuis le studio 101 de la Maison de la Radio à Paris. Et pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un président et son premier ministre s'affrontent dans la course à l'Élysée. Ils se connaissent très bien. Pendant 2 ans, ces deux monstres de la politique française ont inauguré une autre première de la Ve République. La cohabitation entre un président et un premier ministre issus de 2 partis politiques opposés, l'un de gauche, l'autre de droite. Aux côtés des journalistes Michel Cotta et Élie Vanier, 2 hommes se font face, 2 hommes au parcours inverse. D'un côté, François Mitterrand, qui avait commencé son aventure politique au sein de la droite nationaliste avant de devenir le premier président socialiste de la Ve République, un soir de mai 1981. De l'autre, Jacques Chirac, premier ministre de droite, qui avait milité aux côtés des communistes dans sa jeunesse, mais qui finira par embrasser la cause gaulliste, devenant même son héritier. Après seulement 30 minutes de débat, François Mitterrand ramène Jacques Chirac à sa fonction de Premier ministre, installant alors dans la tête des téléspectateurs l'idée qu'un Premier ministre n'était pas de taille pour battre un président. Avec cette simple phrase, il portera l'estocade. Le bon mot fait mouche et restera dans l'histoire. Victoire par chaos alors même que le match vient à peine de commencer. Quelques jours plus tard, le 8 mai 1988, le peuple français dans sa majorité donnera raison à François Mitterrand qui sera réélu avec 54% des voix. Jacques Chirac, lui, connaîtra une traversée du désert et devra attendre encore 7 ans pour, contre toute attente, être élu président et succéder ainsi à François Mitterrand. Retour ce soir sur 2 années de cohabitation, d'humiliation, de coups bas, de coups de com' et de campagne perpétuelle. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Franz-Olivier Gisbert, bonsoir.
Bonsoir.
Oh, vous êtes venu avec votre beau chapeau. Oui. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, vous êtes éditorialiste au Point, vous êtes l'auteur de différents ouvrages, Chirac, une vie aux éditions Flammarion, François Mitterrand, une vie aux éditions du Seuil, c'est dire si vous connaissez les deux monstres politiques dont nous allons parler ce soir.
1000 pages sur chacun, je les ai vraiment beaucoup suivis.
Vous les connaissez bien,
bien sûr.
Évidemment. Ce débat d'entre-deux-tours, c'est quand même le point, je dirais, allez, culminant, savoureux d'une relation épique.
C'est ouais, ça, je crois que c'est le débat le plus génial, le débat d'entre-deux-tours qui était le plus extraordinaire. Moi, personnellement, j'ai jamais eu comme chose. C'est vrai que Giscard Mitterrand, c'était pas mal en 74 et en 80, mais ça dépassait tout. C'était d'une violence. Et puis, on était plutôt dans Shakespeare, d'ailleurs, ou dans Racine que dans Phèdre, ce qui a été.
Il y avait de la dramaturgie.
Oui, ouais,
voilà,
il y avait c'était violent. Il y avait beaucoup de violence.
Voilà, il y avait
la violence froide. Vous voyez, la voix de Mitterrand qui était un peu si flante un peu, et puis l'espèce de rudesse un peu de Chirac, enfin c'était quelque chose quoi, c'était deux monstres vraiment.
En fait ça en disait long aussi sur les 2 années qui venaient de s'écouler.
Oui, parce qu'évidemment il s'était fait des coups, enfin c'est surtout Mitterrand qui avait été à la manœuvre, Chirac en avait plein la gueule, mais je pense pas, ça faudra en parler, parce qu'il n'y avait pas une telle haine entre
non,
eux,
non.
C'est-à-dire que c'était plus compliqué que ça la relation. D'ailleurs, il faut voir, ils ont des passés, enfin comment dire, ils viennent un peu de la même France, ils incarnaient un peu la même France.
Avec un goût immodéré aussi, l'un et l'autre pour la province, on y reviendra
dans
un instant.
Voilà, c'est tous les deux en fait des enfants de la province, même si Chirac a été élevé en partie à Paris, mais Mitterrand aussi d'ailleurs à la fin de sa vie, quand il était étudiant, mais il y avait quelque chose chez eux, c'est vraiment le centre de la France dans les deux cas, la Nièvre et la Corrèze, vous voyez, c'était leur terre.
En tout cas, deux monstres de la politique qui ce jour-là s'affrontent, c'est le le débat d'entre-deux-tours suite à la première cohabitation de la Ve République. On y revient jusqu'à 21h sur RTL. C'est jour J et on vous promet ce soir de grands, grands moments et de grandes archives. A tout de suite en direct sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, jour J revient jusqu'à 20h40, car il y a foot ce soir et non pas 21h, comme je viens de le dire. Jour J revient donc sur le débat d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 1988. S'affronte ce soir-là le président sortant, François Mitterrand, et son premier ministre, Jacques Chirac. Deux ans plus tôt, le 20 mars 1986, Jacques Chirac prenait ses fonctions et marquait alors le début de la première cohabitation de la Ve République. Écoutez.
Le peuple français a fait son choix. Il a élu une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale et par là même, il a approuvé une nouvelle politique pour notre pays. Le président de la République m'a proposé d'exercer la fonction de Premier ministre.
Franz-Olivier Gisbert, vous êtes notre invité. Il boit du petit lait quand même ce jour-là, Jacques Chirac.
Un peu, mais pas trop.
Il avait un peu tout préparé, non ?
Au dernier moment, il disait à Balladur, qui était, qui était pas son mentor, qui était présenté comme ça, qui était quelqu'un avec qui il avait sympathisé quand il était au cabinet de Pompidou, parce que c'était le secrétaire général adjoint à l'Élysée au temps de Pompidou, et avant il avait accompagné Pompidou. Et donc, il l'écoutait, il avait relativement confiance en lui, mais il disait, ce serait quand même mieux que ce soit lui. Au dernier moment.
Il voulait envoyer Balladur à sa place?
Ouais, il sentait pas trop la cohabitation. Il avait une image quand même de extrêmement violente. Souvenez-vous, on l'appelait à l'époque Facho Chirac. Il était bien conscient de ça. Le Monde, il faisait des dessins sans arrêt avec des mouches, des postillons partout. Enfin, il était présenté un peu comme un facho, hein. Et puis y compris souvent par les grands médias. Et donc, il se disait, en plus avec cette espèce de violence qu'il avait, hein, parce que c'est quelqu'un qui avait violence parfois. Mitterrand aussi, mais Mitterrand, elle était cachée, elle était sournoise, elle était, vous voyez. Donc, il se disait finalement que ça se passerait peut-être pas si bien que ça.
Il paraît quand même qu'il avait un peu formé son gouvernement à l'avance.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on raconte une histoire, mais qui est fausse. Il y avait l'idée, vous savez, dans les journaux, d'envoyer Jean-Luc Canouet, centriste, aux affaires étrangères, centriste atlantiste, atlantiste d'ailleurs, comme l'était Mitterrand. Et puis de l'autre côté, François Léotard, à la Défense nationale, mais François Léotard qui n'avait jamais exercé de ministre, qui avait jamais été ministre auparavant. Et on a raconté que Mitterrand les avait retoqués. Pas vrai. Pas vrai du tout, parce que moi je peux témoigner, je savais.
Parce qu'on disait qu'il avait déjà un regard sur ces deux postes, justement,
oui,
au sein
sûr,
du gouvernement.
Mais Chirac avait déjà choisi deux personnages que Mitterrand ne pouvait pas contester. C'était Jean-Bernard Raymond, qui est un ancien du cabinet de Pompidou, encore un, qui était ambassadeur à Moscou, qui est une grande figure de la diplomatie française. Jean-Bernard Raymond, personne ne pouvait contester. Et puis d'autre part, André Giraud, qui était un grand technicien, un super technocrate, le nucléaire, etc. Enfin, une grande figure de l'administration française.
Alors, on peut dire
à la Défense nationale.
Voilà, à la Défense nationale. Mais on peut dire quand même que c'est un constat d'échec, cette cohabitation pour Mitterrand. Il est élu en 81, en 86, on est en cohabitation. Alors, un constat d'échec quand même,
échec...
mais limité.
Ah non, mais c'est un échec.
Limité quand même par l'arrivée des députés FN
à
l'Assemblée.
Oui, voilà. Alors, évidemment.
C'est géré, quoi.
C'est géré, c'est un gros échec, comme d'ailleurs l'échec que la gauche connaîtra ensuite en 1993 aux législatives. C'est d'ailleurs la grande défaite historique de la gauche, mais déjà 1986, c'est une défaite horrible. Et simplement, avec le petit truc qu'il a fait Mitterrand de mettre un peu de proportionnel, eh ben, le résultat est là, c'est il y a 33 députés du Front National qui vont foutre un sacré bordel.
Voilà, et qui vont déstabiliser droite qui aurait pu être majoritaire.
La droite, et donc ça va jouer beaucoup. Ça, il avait prévu le coup. Finalement, je pense que ça va mieux pour Mitterrand, mais comme souvent d'ailleurs en politique, dès le premier jour de la cohabitation, c'est-à-dire après cet énorme échec, la cohabitation va lui permettre de transformer l'échec en victoire.
Alors, vous le disiez, c'était des personnalités quand même complètement opposées, hein, et en même temps, enfin éloignées, je dirais, Chirac et Mitterrand, et en même temps, des personnalités qui peuvent se ressembler en certains points. Au-delà de l'amour de la province, ils avaient des amis communs.
Ouais, ils avaient pas mal d'amis communs. Bah, il y avait Edith Cresson, Jean Lipkowski, enfin des tas de gens qui dînaient chez l'un, chez l'autre. Enfin, il y avait des façons de communiquer. Et puis, des causes communes. Je dirais la cause commune, c'était
Giscard en 80.
La cause commune, il y a eu effectivement de ce dîner. que j'avais révélé à l'époque. Alors, ça, c'était aussi parce que on va parler tout à l'heure des mensonges de Mitterrand, mais les mensonges de Chirac. Je sais que Chirac, quand ce fameux dîner, je travaillais dessus en 1981, j'ai raconté toute l'histoire dans un livre en 1987, et je travaille dessus, j'arrive pas, mais finalement je finis par tirer des petits bouts de ficelle et je tire chez les uns, chez les autres, et j'ai un petit peu avancé, et je dis à Chirac, je me souviens très bien, dans son bureau, alors ce dîner avec Mitterrand, ce dîner anti-Giscard pour préparer l'élection présidentielle, pour préparer la défaite de Giscard, il a bien eu lieu. Il me prend, il me tire vers le mur, il me regarde les yeux dans les yeux, et il me dit pas je vous jure, il me dit je vous assure que ce dîner n'a jamais eu lieu. C'est une invention. Et il me regarde, les mâchoires serrées, vous savez, la Chirac, mais ça y est, allez, c'est bon, il m'a bien menti. Parce qu'ils ont ça, l'un et l'autre, hein, je dis, c'est pas l'un plus que l'autre, mais l'un et l'autre, ils ont quand même le mensonge dans le sang.
Alors, on y reviendra évidemment, deux
c'est
jours.
C'est pour ça que c'est grand, d'ailleurs, cette espèce de cohabitation.
Incroyable.
Incroyable, parce inoubliable. Que ce sont deux monstres. Alors que, par exemple, la cohabitation suivante entre Mitterrand et Balladur, ça va être horrible parce que Mitterrand déteste Balladur.
Alors, là, il joue un peu dans la même catégorie.
Je dirais pas qu'il aime pas Chirac. Il dit beaucoup de mal de Chirac, mais ça, c'est normal. Il a besoin de haïr les gens qui combattent. Mais en même temps, voilà, il y a quelque chose entre eux quand même.
Deux jours, en tout cas, après, a lieu le premier Conseil des ministres avec un nouveau gouvernement. Donc formé par Jacques Chirac. Je voudrais juste qu'on écoute le souvenir qu'en gardait Philippe Séguin, fraîchement nommé ministre des Affaires sociales et de l'Emploi.
Au bout d'un quart d'heure, si j'ose dire, l'affaire de la cohabitation était réglée. Il y en avait un qui dominait, c'était Mitterrand, et puis tous les autres qui étaient là à attendre que la foudre leur tombe sur la tête. C'est extraordinaire, comme par sa personnalité, par son regard, par ce qu'il était. C'est vraiment admirable. Il était tout seul, on était 40 autour de lui, et c'est nous qui nous sentions les intrus. Et lui qui était chez lui.
François-Olivier Gisbert, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça donne le ton, finalement, de la suite, quoi.
Ah oui, complètement. Mitterrand
ne lâchera pas.
Tout de suite, il ne le lâchera pas. Et de toute façon, vous savez, c'est la politique. À partir du moment où vous êtes au pouvoir, les emmerdes, comme disait très bien Chirac.
Volent en escadrille.
Voilà, exactement.
On se retrouve dans un instant. Exactement. Georges revient ce soir sur la première cohabitation de la 5e République. C'est savoureux. On va rentrer dans le détail justement de leur relation dans un instant. Inoubliable. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Georges revient ce soir sur la première cohabitation de la 5e République. À la tête de l'exécutif, un couple que tout oppose a priori, le président François Mitterrand et son premier ministre Jacques Chirac. On vient de les laisser au premier conseil des ministres où l'on a tout de suite compris la couleur. Le patron, c'est Mitterrand et il tient à le préciser quelques semaines seulement plus tard. Nous sommes le 6 mai 1986 au sommet de Tokyo.
Il n'y a qu'une voix de la France. Ceci est dit une fois pour toutes.
Bon, eh ben au moins, c'est clair, c'est carré, c'est précis. François-Olivier Gisbert, vous êtes notre invité jusqu'à 20h40. Pourquoi est-ce qu'il se doit toujours de le préciser ? Qu'il n'y a qu'une voix de la France. Les journalistes, ils jouent un peu là-dessus ou pas ?
Le journaliste, non, je pense que c'est Mitterrand. Parce qu'il veut revenir, Mitterrand, parce qu'il veut gagner à nouveau, il sait que cette cohabitation, c'est sa chance, et il va la jouer à fond, c'est-à-dire il va mettre la tête sous l'eau Chirac, dès qu'il pourra, à chaque fois.
Chaque phrase.
Avec un petit sourire, avec. Vous voyez, mais ça, je pense qu'il n'y a pas une haine torride, contrairement à ce qui peut apparaître dans le débat. Dans le débat, je sens la haine, on sent la haine. Hein, ils sont le grand débat de 1988, c'est vraiment deux hommes qui se haïssent. Mais pendant la cohabitation, c'est plus un jeu de chat et de souris, mais c'est quand même Mitterrand qui est le chat. Lui, c'est la pauvre souris, et la pauvre souris qui fuit, parce que, de toute façon, quand vous êtes au pouvoir, forcément, dans un pays notamment comme la France, vous êtes le méchant.
Mais est-ce que Mitterrand ne contraint pas quelque part Chirac à jouer une sorte de rôle, bon, évidemment de second, mais on a l'impression que Chirac, c'est un petit peu, vous savez, cet homme politique qui essaye toujours d'être un peu sur la photo, qui essaye toujours d'exister un petit peu, et d'être toujours à côté, quelque part, du président pour exister. Il le contraint à ce rôle-là, de devoir se défendre.
Bien sûr, parce que justement, peut-être, d'ailleurs, il n'a pas très bien joué là-dessus. Je pense que Balladur, qui détestait, alors lui, carrément, beaucoup plus Mitterrand, a mieux joué. Il essayait d'exister en tant que Premier ministre. Il avait le respect des institutions. Bien voir, Chirac a un côté scolaire. Hein, c'est-à-dire que voilà, il respecte les institutions, il est Premier ministre, il va pas faire de coup d'État, contrairement à ce que un certain nombre de journalistes débiles nous annonçaient, et il va faire les choses le mieux possible. Et évidemment, dans ce jeu-là, ça marche pas, parce que Mitterrand l'humilie, disons, dès qu'il en a l'occasion.
Mais qu'est-ce qui justifie à un moment donné cet acharnement ?
Ah ben, ce qui justifie, c'est que Mitterrand, il veut remonter. Il veut remonter, il veut faire remonter les socialistes, il veut gagner la prochaine élection. Mitterrand, il a déjà en tête la revanche de la présidentielle. Il va faire croire qu'il hésite avant 88, oui. Il ne sait pas trop, etc. Mon œil, tout le monde sait qu'il ne pense qu'à ça. De toute façon, ces gens-là ne pensent qu'à ça. Et je veux dire, même sur une civière, ils se seraient présentés à la présidence de la République, Mitterrand. Ben oui, ils aiment trop ça, tous, regardez-les, les uns après les autres.
Mais on sent quand même que Jacques Chirac essaye d'exister, mais vous dites qu'il respecte les institutions. Est-ce que Jacques Chirac était impressionné aussi par le président François Mitterrand ?
Non.
Non ?
Non, 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 non. Non, les mitterrandistes essayaient de le faire croire.
D'accord.
C'était leur truc, c'est-à-dire, bon... parce que Mitterrand avait quelque chose d'impressionnant, parce que c'était quelqu'un d'un très, très bon niveau, très intelligent, très séduisant. Je dirais pas vraiment charismatique, ah ouais, mais vraiment le charisme de l'intelligence, en tout cas, voilà. Parce que lui, Chirac avait plutôt le charisme du physique, alors, carrément. C'était, même s'il était intelligent, parce que tous les trucs, tout ce qu'on essayait de nous faire croire, Chirac débile, on a bien vu que c'était pas le cas. On peut pas dire que c'était un grand président, il a pratiquement rien fait. Bon, Mitterrand, on peut pas dire non plus que c'était un très grand président, mais en tout cas, c'était deux belles figures très intéressantes à observer et qui ne se sont pas fait de cadeaux, mais c'est quand même Mitterrand qui avait tout le temps le couteau. Quoi.
Mais Chirac n'avait pas peur de Mitterrand.
Non.
N'était pas impressionné. Il en avait vu d'autres.
Mais non, mais il faut pas oublier d'où vient Chirac. Chirac, il a travaillé, c'était le proche collaborateur de Pompidou, qui, déjà, quand il était petit, voulait en faire un grand ministre. Enfin, et puis surtout, il a été élu dans des conditions invraisemblables en Corrèze, alors qu'il devait être battu, convoqué par le général de Gaulle, avec lequel il reste une heure, jeune député. Il était secrétaire d'État sous de Gaulle, il a connu de Gaulle, vous voyez ce que je veux dire ?
Il en avait vu d'autres.
Mais il y en a vu d'autres. Puis je pense aussi, quand on a vu de Gaulle, on est un peu vacciné, vous voyez ce que je veux dire ? Là, on a vraiment vu le grand homme du XXe siècle.
Justement. Mitterrand, en tout cas, n'aura de cesse de vouloir fermer le clapet, je dirais, hein, de son premier ministre et de le renvoyer, en tout cas, de tenter de le renvoyer dans son ombre. Écoutez, nous sommes le 30 juin 1987, un an après le début de cette première cohabitation de la Ve République. Les deux hommes sont à Bruxelles et tiennent une conférence de presse a priori, et j'insiste vraiment sur le a priori, conjointe.
Monsieur le Premier ministre, vous jugez également que c'est un bon conseil ?
Mais si vous permettez, il y a une conférence de presse, bien entendu, monsieur le Premier ministre est là, et tout à fait normal qu'il en soit levé, mais il n'y a pas deux conférences de presse à la fois. Donc nous verrons à nous répartir les réponses.
Et de toute façon, il n'y a pas deux avis différents sur des problèmes de cette nature.
Alors, ce qui est quand même génial, François-Olivier Gisbert, c'est que le journaliste pose une question à Jacques Chirac, et c'est François Mitterrand qui répond.
Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Chirac ? Ben, il ne va pas s'opposer.
Évidemment.
Il ne peut jamais s'opposer, sinon c'est le méchant. Vous savez, c'est comme dans les westerns, celui qui tire le premier, il est mort. Donc Chirac, il ne va jamais tirer le premier, il n'est pas bête. Et Mitterrand, lui, il peut se permettre de tirer parce qu'il est dans la position suprême. Il est le président, donc il tire d'ailleurs pas très fort à chaque fois.
Oui, mais il contraint quand même Chirac à obtempérer, quoi. C'est ça.
Ouais,
publiquement,
ouais,
en tout cas.
Voilà,
c'est là où il est très fort.
Ouais,
il prend tout le monde à partie. Il remet
à
sa place. Je voudrais qu'on écoute maintenant ce que confiait Jean-Louis Bianco, à l'époque secrétaire général de l'Élysée, dans le documentaire de Patrick Rothman, Chirac, le vieux lion. Ça date de 2006.
François Mitterrand et Jacques Chirac quittent le bureau du président, descendent ensemble vers le Conseil des ministres, m'appellent pour me donner telle ou telle consigne, et François Mitterrand dit quelque chose à Jacques Chirac, et Jacques Chirac dit « Oui, mon général ». Il s'arrête à « Mon général, monsieur le président ». C'est incroyable, mais j'ai été témoin de ça.
Alors, François-Olivier, est-ce que faire référence au général de Gaulle de la part de Chirac à l'attention du président Mitterrand, est-ce que c'est de l'ironie ou est-ce que c'est véritablement
une marque de respect ?
Ça lui
est passé par la tête. Mais enfin, c'est pas le signe d'une admiration secrète de Chirac pour Mitterrand, comme voudrait le faire croire Jean-Louis Bianco. Non, c'est un. Vous savez, il faisait quand même beaucoup de lapsus comme ça de temps en temps, Chirac, parce que rythme de vie effréné. C'était l'époque où il clopait comme un malade. Il vivait aussi pas mal. Il avait des journées très très longues. C'est pas comme les journées de Mitterrand. Ça commençait à 6h, ça finissait à 1h, 2h du matin. Vous savez pas où d'ailleurs. Enfin bon, bref. Vous voyez, par moments, il pouvait lui arriver de mélanger un peu les trucs. mais
donc
c'est pas
c'est
plus que ça.
Confusion sans importance.
Oui.
Très bien. On se retrouve dans un instant, on va parler des affaires qui ont marqué évidemment cette cohabitation. Et puis, bien évidemment, on va en arriver à ce fameux jour du débat entre deux tours.
Flavie Flamand sur RTL.
On se régale ce soir. Franz-Olivier Gisbert, vous êtes notre invité. On revient avec vous sur la cohabitation, je dirais, riche en couleurs, en coups de com' et en coups d'éclat Mitterrand-Chirac entre 86 et 88. Il y a deux affaires cruciales qui ont marqué cette période. Malik Oussekine. Alors Malik Oussekine, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'était un étudiant de 22 ans, passé à tabac par des voltigeurs.
Qui avait un problème rénaux, des problèmes rénaux et qui est mort.
Voilà, et qui est mort. C'était lors des manifestations à Paris contre la loi Devaquet. Il va succomber donc à ses blessures dans la nuit du 5 au 6 décembre 86. C'est un événement tragique qui arrive.
C'est foutu. Je pense que c'est à partir de moment
c'est six mois après le début de la cohabitation.
Mais ça arrive après une situation absolument cataclysmique. Il faut bien voir que Chirac, quand il est nommé le 20 mars, il y a un attentat le 20 mars 86. Il y a un attentat à la galerie Poinchot des Champs-Élysées. Et puis ça y va. Et puis vous avez l'énorme attentat de la Haudraine chez Tati.
Alors oui, mais l'affaire Malik Oussekine, vous dites que là, c'est vraiment le début de la fin.
Oui,
c'est six mois après
c'est
la cohabitation.
Foutu, on le sent très bien, tout le monde le sent, c'est fini quoi.
D'accord. Donc, ça renforce la gauche, évidemment.
Ça renforce la gauche. Mitterrand d'ailleurs en fait peut-être moins à ce moment-là. Vous voyez, il est plus. Non, enfin, de temps en temps que tu peux le tacler, il le tacle, son Chirac. Mais, alors, mais c'est moins. Non, il y a moins.
Attendez,
il
en fait moins, mais c'est quand même lui qui se rend, écoutez, auprès de la famille.
Ah,
de
bah
Malik
oui, bien sûr, bah, c'est la moindre des choses.
Je vous dirai simplement ces quelques mots. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation et lui dire personnellement ma peine devant ce grand malheur.
Est-ce que le fait que ce soit Mitterrand qui se soit déplacé et pas Chirac, c'est une façon aussi de garder l'opinion pour lui ? L'opinion
indignée. Oui,
bien sûr. Mais enfin, bon, il marque un point.
Oui, il marque un point. C'est un peu la moindre des choses en même temps. Moi, on ne peut pas lui reprocher à François Mitterrand de s'être rendu auprès de la famille.
Deuxième affaire, l'affaire Gordy. Alors là, on est toujours en 86.
Ça, c'est un truc,
voilà. Alors, une année marquée par les attentats. Dans le cadre de l'enquête, le juge veut auditionner Wade Gordy, ouais. Qui est présenté comme un traducteur en fait à l'ambassade d'Iran. On le soupçonne.
Qui est présenté, mais tout le monde sait que c'est l'homme des missions secrètes, enfin des sales coups, des mauvais coups.
Voilà. Alors,
ça, tout le monde le sait par les services spéciaux et les services secrets français.
Parce qu'on soupçonne effectivement d'avoir fréquenté.
Ah non, on ne soupçonne pas, on dit que c'est lui qui organise, qui manipule, parce qu'il contrôle, il voit les uns, il voit les autres.
Quand ils viennent le chercher.
Mais l'enquête ne se passe pas bien.
Voilà, quand ils viennent le chercher, Gordy n'est pas là, il s'est réfugié à l'ambassade. Ouais. La suite.
Eh ben, il s'est réfugié à l'ambassade et surtout, là, quand il y a l'enquête, on découvre que les choses qu'on pensait avoir contre lui, bah, tout se casse la gueule. C'est-à-dire, il y avait notamment l'histoire de la BMW, il avait une BMW noire qui avait été vue. On prend sa BMW, eh ben, apparemment, ça n'est pas celle-là.
Cette affaire, elle sera au cœur de ce fameux débat de l'entre-deux-tours dont on parle aujourd'hui. Parce que chacun va apporter sa version des faits sur l'affaire Gordy. Quelle est la version de Chirac? Quelle est la version de Mitterrand?
Bah, la version de Mitterrand, c'est que Gordy a été relâché sur ordre de Chirac, qui savait qu'il était coupable.
Qui serait responsable, finalement.
Alors, qui savait qu'il était responsable. Or, en fait, quand on voit l'enquête, l'enquête n'aboutit à rien. Donc, c'est pour ça qu'il a été relâché. C'est que le juge, il a fait son boulot. Ça, c'est quand on regarde les choses avec un peu de recul, à l'époque, il n'y avait pas ce recul. C'est-à-dire, c'était, les gens voulaient des têtes, vous savez. Mais la justice a fait son travail, et apparemment, le dossier était vide. Sauf que c'était quand même vraisemblablement le commanditaire, enfin un des organisateurs, même s'il n'avait pas mis la main à la pâte. Enfin, il était au moins au courant des attentats, puisque les attentats qui ont vraiment ensanglanté la France dans cette année 86, c'était des attentats commandités par l'Iran. Ils ont embrouillé au maximum, etc. Mais c'était l'Iran, on le sait, aujourd'hui.
Bon, alors en tout cas, ce soir-là, dans le débat de l'entre-deux-tours, Mitterrand accuse Chirac d'être responsable d'un fiasco. D'être responsable d'une crise diplomatique entre l'Iran et la France.
Bon, enfin, la crise diplomatique entre l'Iran et la France, je crois qu'ils s'en foutent, mais non, le problème, c'est qu'il lui reproche d'avoir fait laisser sortir quelqu'un qui avait commis des attentats.
Voilà. Alors, maintenant.
Et vous savez pourquoi il le fait? Il le fait parce que Chirac a commencé très très fort sur l'histoire d'Action Directe. C'est-à-dire Jean-Marc Rouillant.
Autre organisation terroriste.
Et Nathalie Ménigon. Qui avait été libérée par la gauche. En 1980, dans la foulée de 1981, on les a libérés. Oui, la gauche les a libérés. Et alors qu'il n'y avait aucune raison de les libérer. C'est-à-dire, c'était vraiment la gauche qui les a libérés. Et évidemment, ils ont commis ensuite des attentats. Général Audran, Georges Besse, l'ancien patron de Renault, etc. Et donc, il lui plante un espèce d'énorme couteau dès le début. On voit là que Mitterrand se met en colère, la voix sifflante, etc. Il est... Et on voit aussi que Chirac, là, il est... voilà, il domine un peu au début parce qu'il lui en met tellement plein la gueule. Et là, Chirac a fait une erreur parce que Mitterrand va lui sortir le gros mensonge qui va mettre Chirac KO.
Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux ?
Dans les yeux, je la conteste.
Bon, très rapidement, qui croire ? Dans les yeux, je la conteste.
Ah ben, qui croire ? Moi, je crois Mitterrand, puisque c'est Mitterrand qui ment, puisque il m'a
donc
dit...
c'est Mitterrand qui ment.
Bah, il m'a dit en 1989, la scène est cocasse, d'ailleurs, j'étais dans son bureau à l'Élysée, en 1989, et il me raconte toute l'histoire. Il me dit, ça s'est pas passé comme ça. Et j'ai deux magnétophones, et il me dit, à un moment donné, avant de raconter vraiment l'histoire, il me dit, vous pouvez vérifier quand même, parce qu'il voulait que ce soit écrit pour l'histoire. Peut-être parce qu'il préparait la suite avec Chirac, je ne sais pas, mais il voulait qu'il soit dit qu'effectivement, Chirac ne lui avait pas dit que c'était Pasqua qu'il avait dans son bureau à l'Élysée. Pasqua, il y avait Pasqua, Jean-Bernard Raymond, le ministre des Affaires étrangères. Tout ce monde s'était engueulé devant Mitterrand et Chirac ne disait rien, donc Chirac n'avait rien dit.
Le fin mot de l'histoire avec vous, donc Franz-Olivier Gisbert, merci d'avoir accepté mon invitation à noter la sortie au mois de novembre de tout nouveau livre, Histoire intime de la 5e République,
aux éditions
Gallimard. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h sur RTL. Nous serons le 17 août 96. Claudie André Dehé devenait ce jour-là la première Française à aller dans l'espace. Allez, dans un instant, c'est le foot sur RTL. On est à l'heure, voilà, avec Eric Silvestro et toute sa bande. Le match, c'est France-Finlande. Bonne soirée et à demain sur RTL.